Alors vous savez que là maintenant à 10h, les Français sont invités à lire un livre. La lecture en 2022 est déclarée grande cause nationale. Alors ça interroge bien sûr, on se posera la question, pourquoi la lecture grande cause nationale? Mais en attendant, on se plie au jeu et je vous propose donc un petit moment de lecture.
Allons-y.
Pardon, fit-il, je crois que je me suis égaré. Je cherche un embranchement que je ne trouve pas. Vous n'auriez pas l'idée d'un embranchement dans le coin? Il s'agissait d'une jeune femme, un peu voûtée, des petits souliers plats, des cheveux ternes, mi-longs, qu'on dirait, faute de mieux, châtain. De grosses lunettes sur un bref nez busqué, le tout maquillé violemment, puis emballé dans une tenue de jogging dépareillée. Expression fermée, peut-être craintive, rien d'attrayant, pas l'air méchant. Elle s'arrêta sans s'approcher tout de suite, son corps penché de côté sous le poids d'un sac à provisions. « Un embranchement !» répéta Kastner. « Un croisement !» Elle paraissait à première vue n'avoir pas d'idée sur ce sujet. Puis, elle ne semblait pas avoir tellement d'idées en général. « Pas l'air bien dégourdi !» jugea Kastner en insistant lentement, d'une voix mieux articulée, appuyant bien son doigt sur la carte qu'il présentait de travers par la vitre baissée. « L'Aunay mal nommé !» précisa-t-il. « C'est là que je vais !»« L'Aunay !» dit enfin la femme sans regarder la carte. « Mais je vois bien, c'est mon chemin !» Attendez que je vous dise. Les grandes blondes, Jean et Schnoz, Laetitia, on vous retrouve à 11h et grand bien vous fasse. C'est parti. Et si on arrêtait tout pour prendre un bon bouquin? Et pourquoi pas? Depuis 10 heures donc, c'est la France toute entière qui est appelée à lire pendant un quart d'heure. Hashtag 10 mars je lis, c'est une opération proposée par le Centre National du Livre. L'occasion de se demander ce matin pourquoi les livres nous font du bien. Ce roman qu'on ne veut pas lâcher, qui nous suit partout, sous la couette, dans le bain ou le train. On a vu pendant le confinement le rôle essentiel des libraires. Le livre comme un besoin. Alors il y a celles et ceux qui ne peuvent s'endormir sans feuilleter quelques pages, celles et ceux qui se sentent mal si elles ou ils n'ont pas un livre sous la main. De l'évasion à l'introspection, du polar à l'essai, du roman à l'eau de rose au roman érotique, il y en a pour tous les goûts. Et vous, où lisez-vous? Quand lisez-vous? Que lisez-vous? Dites-nous tout, 01 45 24 7000. Vous pouvez aussi nous faire part sur les notes vocales, les notes vocales via l'appli de France Inter, des lectures de vos œuvres préférées. Et puis si vous détestez les livres, vous avez aussi le droit de nous appeler. Plaisir de lire, joie de recevoir. Merci d'être avec nous, grand bien vous fasse. C'est le mode d'emploi de la vie quotidienne.
France Inter, Thomas Chauvineau, grand bien vous fasse.
Et quatre invités pour bouquiner ce matin, une dévoreuse de livres. Bonjour Patricia Martin de
bonjour
France
Thomas
Inter.
Chevineau, bonjour à tous.
Critique littéraire, on vous a longtemps entendu au Masque et la Plume et vous animez l'heure philo.
On vous entend aussi
au Masque et la Plume et vous animez l'heure philo tous les vendredis à 20h, donc sur France Inter. Bonjour Sylvie Chocron.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche en neurosciences au CNRS et vous nous raconterez quel chemin, leur chemin au pluriel, parcourt la lecture dans notre cerveau, ce que la science sait aujourd'hui des effets de la lecture. C'est assez passionnant. Bonjour Cola Gutmann.
Bonjour.
Vous êtes auteur pour enfants et adolescents. On vous doit notamment cette série au titre génial Chien pourri. Il est pourri votre chien ?
Complètement.
C'est une série publiée par l'École des loisirs. Et enfin, Régine Atchondo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente du Centre National du Livre, donc à l'initiative de cette journée hashtag 10 mars je lis, à l'initiative aussi de cette lecture déclarée grande cause nationale. Et on peut s'interroger, pourquoi déclarer la lecture grande cause nationale aujourd'hui? Elle est en danger?
Le président de la République a décidé de cette grande cause pour la dernière année du mandat, parce que la lecture est essentielle. Est-ce qu'elle est menacée? Non, aujourd'hui on ne peut pas dire qu'elle est menacée. En revanche, on constate chez les jeunes une plus grande attirance vers les écrans qui occupent 4h15 de leur vie contre 3h10 pour la lecture. Donc, elle n'est pas en danger, mais il convient de la défendre plus que tout. Et je pense que c'est la raison pour laquelle... La lecture a été décidée grande cause.
Il y a comme une forme de disproportion, disons, entre cette grande cause nationale déclarée. En 2018, par exemple, la grande cause nationale, c'était les violences faites aux femmes, qu'on comprend bien mieux que la lecture.
Mais peut-être que si les hommes lisaient plus, ils cesseraient de cogner leurs femmes.
certes, mais Patricia Martin.
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, chère Régine, parce que vous remarquerez d'ailleurs que, par exemple, ça a été mesuré, dans les prisons, quand on donne du vocabulaire, c'est-à-dire quand les prisonniers se mettent à lire, la tension baisse, la violence baisse, bien évidemment. Et il faut comprendre que là, d'abord, vous remarquerez, on a tous le sourire aux lèvres autour de cette table.
C'est vrai.
Parce que c'est une joie de parler de la lecture. Et que ceux qui n'y ont pas accès, je trouve, sont presque, c'est presque un handicap en quelque sorte. Et que ce besoin, cette nécessité de la lecture, ça peut se provoquer. Et ça peut se provoquer à tout âge. Et je vous assure que c'est un lien à l'autre, c'est une ouverture sur le monde, c'est une joie, un divertissement, une consolation, c'est tout ce que vous voulez. Moi, j'en ai des frissons en parlant, mais je ne sais pas qui je serais si je ne lisais pas.
Régine Atchondo, puisque vous avez proposé de lire aujourd'hui aux Français à partir de 10h au moins 15 minutes, je vous propose de vous plier vous aussi à l'exercice de prendre un livre, je vois que vous en avez apporté un, et de nous lire un petit extrait. Alors, peut-être pas 15 minutes, ce serait un peu long pour nous. Mais
je comprends,
tout de même,
je comprends.
Un petit extrait, de quel livre s'agit-il ?
Il s'agit de La promesse de l'aube, de Romain Gary.
Nous vous écoutons.
Souvent, avant de m'endormir, je voyais ma mère entrer dans ma chambre. Elle se penchait sur moi et souriait tristement. Puis elle disait « Lève les yeux ». Je levais les yeux, ma mère demeurait penchée sur moi un long moment, puis elle m'entourait de ses bras et me serrait contre elle. Je sentais ses larmes sur mes joues. Je finis bien par me douter qu'il y avait là quelque chose de mystérieux, et que ces larmes troublantes, ce n'était pas moi qui les inspirais. Un jour, je finis par interroger Agnella là-dessus. Agnella, pourquoi maman pleure-t-elle? En regardant mes yeux. Agnella parut gênée. Elle était avec nous depuis ma naissance. Il y avait peu de choses qu'elle ignorait. C'est à cause de leur couleur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont, mes yeux? Agnella poussa un gros soupir. Ils la font rêver, dit-elle, évasivement.
La promesse de l'aube de Romain Gary. Pourquoi ce livre?
Oh, parce que je pense que c'est un livre que j'emmènerai en tous les cas sur une île déserte. Je le trouve d'une beauté indicible à tous égards. Sur la personne de Romain Gary, sa relation à la mer, cette mer étouffante qu'il déteste et qui en même temps la construit quand même. Tous les combats.
Patricia Martin, vous vous souvenez du premier livre que vous avez lu ?
J'étais sûre que vous alliez me poser cette question et je suis incapable d'y répondre. J'en sais rien.
C'est vrai ?
Honnêtement, je sais pas. Je me souviens de certains
Celui
livres
qui vous a
de
marqué,
l'adolescent.
Le...
Bon, alors c'est une porte ouverte. Mais Madame Bovary, oui, Madame Bovary de Flaubert, parce que ça a été les livres de Stendhal, y compris Lucien Levenne que mon père m'a fait lire et qui est pas simple, mais dans lequel j'ai fini par rentrer. Oui, c'est des souvenirs comme ça, mais ça a rien d'extraordinaire. Et puis après, tout est ouvert. Mais déjà, quand on est tout petit, enfin, en plus avec le choix qu'il y a aujourd'hui, y compris, on peut aller chercher des bouquins pour les enfants dans les bibliothèques. Donc, même quand on n'a pas énormément d'argent, ouvrons cet univers-là aux enfants.
Mais justement, vous dites que ça n'a rien d'extraordinaire, mais les auteurs qu'on a cités jusqu'à présent, Romain Gary, Stendhal, sont aussi des auteurs qui peuvent faire peur. Et il n'y a pas que cette littérature-là, précisément, Paula Guttmann.
Ah bah oui.
Vous qui avez écrit Chien pourri.
Des bien vivants. Oui, c'est sûr qu'il faut un peu désacraliser tout ça et montrer que, je sais pas, au moins peut-être que lire juste c'est sympathique, c'est cool. Parce que à partir du moment où on parle de cause nationale et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a un côté très important qui peut faire un peu peur. Et en tant que parent... Moi, je dis à chaque fois, non, mais lis, c'est important de lire et tout ça. Mmh. En fait, ça passe pas du tout. C'est comme si tu dis, mange tes brocolis aussi, c'est important de manger des légumes chaque jour et tout. Alors que si les parents partagent déjà avec leurs enfants ce qu'ils ont aimé, eux, moi, je sais pas, j'ai dit à mon fils, ah bah écoute, le petit Nicolas, c'est super. Mmh. Non, je m'en fiche du petit Nicolas. Si, vas-y, lis, tu vas voir. Alors aussi parce que les parents connaissent leurs enfants, et c'est sûr qu'un môme qui préfère les mécanos, faut pas lui
donner tout de suite le petit Nicolas.
Ouais, non, voilà, faut. Sinon, c'est trop général, quoi. Le truc de ah oui, c'est important de lire. Alors au bout d'un moment, la lecture, en plus, ça devient un truc un peu compliqué à l'école parce qu'on est noté sur ce qu'on lit. Pas tout de suite, mais ça vient. Et du coup, il y a des blocages qui se font, alors que...
En fait, vous parlez en connaissance de cause.
Non, mais en fait, il y a un truc qui marche, je vais vous dire. C'est quand tout le monde dans une famille se met à lire au même moment. C'est-à-dire que les portables, les écrans et tout ça, on a tous le même problème avec ça. Mais les adultes aussi, on peut pas dire à un môme, non, là, vas-y, lis pendant un quart d'heure. Et pendant ce temps-là, le gamin, il va voir ses parents en train de faire un peu d'Internet, répondre à des mails et tout ça. Ça marche pas. Donc, il faut donner envie parce que c'est super.
Les profs aussi peuvent vous donner envie à l'école. Enfin,
oui,
ils
les
sont...
profs, ouais, mais
c'est un médiateur profs... formidable, un professeur.
Bien sûr, mais ils vont réussir plus, à mon avis, hein, à capter les bons élèves qui, de toute manière, n'ont pas de problème pour aller vers les livres. Voilà, c'est ce truc. Alors, en effet, les bibliothèques, c'est super. Si on pouvait aussi mettre des franchement, faire des petites bibliothèques dans les classes. Un truc, un coin lecture, quoi. Pas le truc, vous devez lire...
Il y a des classes qui le font.
Ouais, mais il faut des moyens, tout ça. C'est...
Des livres à disposition, et servez-vous, et pas imposer la lecture. Ça veut dire qu'il faut aussi considérer, et Patricia le disait en préambule, mais la lecture comme un plaisir.
Ah bah oui.
Avant tout,
oui.
D'abord un plaisir.
C'est surtout un plaisir.
Et pas comme une évaluation permanente.
Ouais, c'est ça. Et même, il y a un truc un peu... pas aristocratique, mais comment dire ça? Voilà, faut arrêter que ça soit toujours les mêmes gamins ou les mêmes adultes qui lisent des livres, quoi. Donc en effet, il y a les bibliothèques, il y a les librairies qui font un super boulot, mais il faut connaître un peu son libraire. En ce moment, j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué.
Alors, puisqu'on parle de plaisir, justement, Sylvie Chocron, alors il y a beaucoup de travaux qui ont été menés, vous êtes chercheuse en neurosciences, hein, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés pour comprendre quels sont les bienfaits de la musique dans le cerveau, par exemple. On sait, on peut le quantifier, on analyse les synapses qui fonctionnent, tout ce qui entre en relation, mais est-ce qu'on a ce même type de travaux pour les livres?
Alors, effectivement, ça commence, et donc il y a des recherches qui montrent que lire, et en particulier même lire 30 minutes, au bout de 30 minutes, on va avoir véritablement une baisse de la tension artérielle, une réduction du stress, un sentiment de bien-être. Donc il y a le même type de recherche qui arrive. Mais ce que je voudrais dire, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que pour que la lecture soit un plaisir, il faut qu'elle se soit vraiment, que la partie décodage se soit automatisée. Il faut qu'il y ait plus d'efforts à transformer, parce que la lecture, c'est quand même une tâche très complexe sur le plan cérébral, parce que vous passez d'un signal écrit, d'une information visuelle, à une information verbale, voire même orale, quand vous lisez à haute voix. Et donc, ça met en jeu plein de régions dans le cerveau, plein de connexions dans le cerveau. Et donc, c'est pas du tout une tâche triviale. Et pour arriver au plaisir, il faut que ce décodage, cette partie vraiment très technique, elle soit automatisée. Et pour que ce soit automatisé, il faut avoir lu suffisamment. Et donc, effectivement, il y a toujours cette discussion chez les enfants entre le fait de leur apprendre à lire pour que la partie de déchiffrage ne soit plus un problème et qu'ils puissent prendre du plaisir à l'évasion, au voyage, au fait d'être complètement plongé dans un autre monde. Et à ce moment-là, on aura les bienfaits de la lecture qui, effectivement, va produire cette sensation de voyager alors qu'on est chez soi, d'être très concentré et qui aura donc un bénéfice sur l'attention aussi. Mais pour ça, il faut avoir passé la barrière de l'apprentissage de la lecture.
Et comment on passe cette barrière ?
Par l'entraînement. Alors, on disait lire tous en même temps, c'est important. Ce qu'on peut aussi faire, c'est lire ensemble. Et donc, en fait, on peut lire à un enfant pendant qu'il suit, ou on peut lire une phrase sur deux, ou un paragraphe sur deux, ou une page sur deux, pour pas que ce soit trop coûteux pour l'enfant, mais pour qu'en même temps, il commence à se familiariser avec cette tâche et peu à peu lui permettre d'arriver à être complètement autonome dans cette activité.
Nous sommes au téléphone avec Arlette. Bonjour Arlette.
Bonjour.
Alors, vous nous avez appelé, Arlette, et je lis le début de votre fiche. Je suis une malade de la lecture.
Oui, une vraie malade. J'ai commencé à lire le dictionnaire quand j'étais petite. Alors, je vous ai proposé tout un tas d'anecdotes, et au fur et à mesure que le temps passait, que j'attendais, je changeais d'anecdote. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai tout appris dans les livres, parce que je suis d'une famille simple, immigrée italien, où mon père lisait Le Hérisson, je sais pas, vous n'avez pas connu, c'est-à-dire des journaux un peu, France Dimanche, ici Paris, ils ne vont pas le dire, voilà. Et ma maman ne lisait pas du tout. Et moi, je lisais le dictionnaire. Et après, j'ai lu... Alors, je vais quand même dire une chose, j'ai tout appris. Après, j'ai fait des études, mais j'ai tout appris avec la collection Rouge et Or. C'était une vraie merveille. Voilà. Et je vous la raconte, mon anecdote.
Bah, bien sûr.
Non, j'ai changé d'anecdote. J'ai connu plus ou moins un journaliste du Canard Enchaîné qui était à l'époque, comment dire, un pied noir. Donc il y avait une sœur qui ne lisait que des romans photos. Et un jour, il nous a raconté, il a dit, mais ma sœur, un jour, je lui ai donné à lire Madame Bovary, Maupassant, Flaubert, Balzac. Elle a dit, c'est comme dans les romans photos. Et elle s'est mise à lire, elle a lu toute la grande littérature française à partir de ça, parce qu'elle pensait que c'était de là qu'étaient tirés les romans photos qu'elle lisait, comme on appelait à l'époque. Ouais. Voilà. Et puis, mon histoire de suppositoire. Hein, donc, quand je me suis retrouvée à faire du théâtre dans une famille lyonnaise...
Attention, vous allez quand même, Arlette. On ne veut pas trop en savoir sur votre intimité et les livres.
Hein. Aucun problème. On va rester dans la littérature. Et je me suis retrouvée dans cette famille. Je vous avais fait une pièce de théâtre. Je faisais du théâtre amateur. Et j'ai dit à la personne qui nous recevait, je n'ai rien à lire et je ne pourrais pas dormir, parce qu'on dormait chez eux, si je n'ai rien à lire. Donnez-moi n'importe quoi, même une notice de boîte de suppositoire, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et elle m'a répondu, vous tombez bien, je suis pharmacienne, j'en ai plein. Sans compter que j'étais comme François Cavana quand je revenais du lycée Montgrand à Marseille avec mes livres dans mon cartable. À l'époque, c'était pas un sac à dos, hein, j'ai 73 ans. Et les voisines me disaient à ma grand-mère, ma vostra petite va vous attraper une méningite. Parce qu'on avait peur quand on lisait trop que les enfants aient la méningite.
Bah écoutez, merci beaucoup Arlette, à la fois pour vos beaux conseils de lecture. J'avais pas imaginé qu'une notice de suppo, ça pouvait être, on pouvait éprouver un certain plaisir en la lisant. Et puis surtout pour votre enthousiasme. Merci Arlette.
Je le reste, oui, pour la lecture, je le reste.
Peut-être merci grâce au livre d'ailleurs. Merci, bonne journée à vous. Et puis sur Facebook, Adeline nous dit bonjour, je souhaite témoigner de mon plaisir de lire, outre le fait de s'évader. Cela permet d'échanger avec d'autres lecteurs, notamment par le biais des réseaux sociaux, avec nos comptes Bookstagram et sur Instagram. Et puis il y a Nathalie qui nous dit pas moins de 3 livres sur ma table de chevet. En fonction de l'humeur du soir, je fais mon choix. Ils sont tous très différents. Un thriller, un roman philosophique ou bien un roman tout court. Écoutez de la musique, c'est aussi un plaisir. Et on attend toujours vos lectures. Vous pouvez aussi nous raconter quel rapport vous entretenez avec les livres. 01 45 24 7000. Et vous pouvez même nous écrire ou laisser des notes vocales sur l'appli de France Inter.
C'est une jolie bande de joyeux fêtards qui se couche à l'aurore et se lève très tard, ne pensant qu'à aimer ou jouer de la guitare. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Ils ne font rien de plus que fêter chaque instant, saluer la pleine lune, célébrer le printemps. Si bien que pour travailler, ils n'ont plus guère le temps. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Et je me reconnais en eux assez souvent, comme je gaspille ma vie à tous les vents. Et je me dis qu'ils sont mes frères ou mes enfants. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. S'ils passent parmi vous, regardez-les bien vivre, et comme soyez fous et comme soyez ivres, car leur seule folie c'est vouloir être libre. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Ils vieilliront aussi qu'ils restent ce qu'ils sont, des viveurs d'utopie aux étranges façons, des amants, des poètes, des faiseurs de chansons. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous
nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer.
Georges Moustaki, la philosophie. Moustaki qui a écrit des chansons, évidemment, mais aussi des livres. Il s'écoute donc et se lit son autobiographie, notamment, qui s'appelle « La sagesse du faiseur de chansons ».
Grand bien vous fasse, Thomas Chauvineau, sur France Inter.
Alors, est-ce qu'il t'arrive de lire des vrais livres ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que ça me plaît pas et puis j'y finis jamais, alors ça sert à rien.
Mais pourquoi ne finis-tu jamais ? Essaye de m'expliquer.
Parce que j'ai la flemme de les terminer.
Est-ce que tu penses que c'est parce que tu es encore très jeune ou est-ce que tu penses que tu auras jamais envie de lire dans ta vie ?
Bah, j'aurais peut-être envie, mais enfin pour l'instant, j'ai pas envie.
Qu'est-ce que tu préfères faire plutôt que de lire ?
M'amuser.
Je sais pas, moi on m'a conseillé de lire parce que ça servait beaucoup pour les études, enfin. Je me suis mis à lire, mais enfin.
Alors, qu'est-ce que tu lis en général quand tu es, disons, chez toi, pas en classe, chez toi ?
Babar. Babar, c'est un peu enfantin, mais c'est pour passer le temps.
Et tes parents te demandent pas de lire autre chose ?
Si.
Et alors ?
Bah, je fais pas.
Quatre invités pour parler du plaisir de la lecture ce matin. Patricia Martin de France Inter, Sylvie Chocron qui est chercheuse en neurosciences, Cola Gutmann qui est auteure pour enfants et Regina Chando, présidente du Centre National du Livre. Alors, ce son qu'on vient d'entendre, c'est un extrait d'Aujourd'hui Madame, de 1972. Donc ça date pas d'hier finalement, ce présupposé rejet de la lecture par les jeunes enfants, Regina Chando.
Non, bien sûr, on le voit bien d'ailleurs. 1972, c'était pas hier. En revanche,
c'est pas si vieux non plus.
Quand même. Mais effectivement, à l'époque, les enfants passaient pas autant de temps sur leur smartphone, sur Instagram.
Oui, mais est-ce que c'est pas un faux débat finalement cette histoire d'écran et de dire, parce que vous dites que il y a une forme de concurrence déloyale avec ces fameux écrans.
Oui, parce que je pense que c'est quand même c'est d'abord on se rend compte que les écrans font beaucoup de mal sur le cerveau. Enfin, je pense que vous allez nous éclairer davantage que moi. Je ne suis pas une spécialiste, mais je lis des études, beaucoup d'études, et je pense que le temps passé à sauter aussi d'une vidéo à l'autre, d'une phrase à l'autre, d'un message à l'autre avec beaucoup de rapidité modifie littéralement la patience aussi qu'on a ensuite à se consacrer à la lecture, j'allais dire narrative, c'est-à-dire au long cours qu'on décrivait tout à l'heure. Donc oui, je pense qu'un, c'est très mauvais pour le cerveau, et ça je trouve qu'on ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez aux parents, même si c'est inscrit dans le carnet de santé des enfants, c'est inscrit en tout petit. Et je pense que ça modifie littéralement la capacité de concentration et le rapport au texte, quand le texte est un tout petit peu exigeant. Et je ne parle pas forcément, bien sûr, de Flaubert, Zola, Stendhal. Je parle de manière générale d'une lecture où on doit se concentrer sur les mots.
Pour cette compréhension. Sur cette histoire. Alors, qu'est-ce que dit la science aujourd'hui
sur
les écrans ?
Bah vous avez tout à fait raison, et à plusieurs titres. D'abord parce qu'effectivement, quand on lit, on a cette attention vraiment soutenue, cette concentration, qui est complètement différente de ce qui se passe sur un écran. Et effectivement, ce qui se passe sur les écrans, c'est qu'on est surstimulé en permanence. Il y a plein de stimulations sensorielles. Il y a du son, il y a de la lumière, du contraste, etc. Et finalement, les enfants perdent l'habitude de n'avoir qu'une source d'information, qui est le langage écrit, la phrase écrite, imprimée dans le livre. Et par ailleurs, on sait aussi qu'on mémorise mieux et on se sent beaucoup plus concerné par ce qu'on lit dans un livre que par une vidéo sur YouTube. Donc ça a été montré. Donc notre mémoire n'est pas du tout la même si on est exposé à une vidéo de 30 secondes ou à une page de livre. D'autant que la particularité du livre, c'est que c'est vous qui créez le décor, c'est vous qui imaginez les personnages, ça se passe dans votre tête. Et donc finalement, c'est une partie de vous. Alors que ce qu'on vous donne à voir sur l'écran, ce n'est pas une partie de vous, c'est déjà quelque part fabriqué.
On est accro à un écran, alors que je trouve qu'on est attaché aux personnages de roman. Et ça fait toute la différence.
Merci
parce
pour
qu'ils
ce
sont,
moment
ils sont un petit peu de ils sont un poésie. Petit peu de nous parce qu'on les a construits dans notre tête.
En même temps, quand on est jeune, Cola Gutmann, bouillonnant d'énergie et aussi d'hormones, c'est vrai que prendre un livre, ça peut être un peu pénible.
Ça peut être pénible, ça peut être moi par exemple enfant, je lisais pas des masses, hein, franchement Je trouvais que c'était une activité justement adulte.
Bon, et aujourd'hui, vous en écrivez.
Voilà. Mais après, les enfants sont un peu monomaniaques, donc il faut les laisser aussi. Je sais que les mangas, ils les dévorent. Alors, moi, j'en ai ouvert peut-être un dans ma vie. C'est pas mon truc. Mais c'est super parce que ça les amène à la lecture. Et puis après, c'est comme quand ils ont mangé beaucoup de la même chose. Ils veulent peut-être découvrir autre chose. Pardon pour la métaphore culinaire.
C'est pas non, super, non, mais elle est très claire.
Mais voilà, faut. Je pense que le discours adulte de la lecture comme quelque chose de très important et de pour la culture, pour l'éducation, l'évolution de l'enfant.
Il est rédhibitoire.
C'est une injonction c'est une injonction. Donc les injonctions, les enfants souvent, ils font un bras d'honneur parce que ça les emmerde quoi. À part quelques-uns. Mais non, mais c'est vrai.
Très culpabilisant en fait.
Ouais, c'est ça. C'est tu lis pas assez, tu machin. Donc faut juste, je sais pas. Alors je sais pas s'il faut poser des livres partout, s'il faut les amener à la bibliothèque. Je sais pas ce qu'il faut faire. Franchement, moi je suis juste auteur. J'ai essayé d'écrire des bouquins que j'aurais aimé lire enfant moi-même. Donc voilà, ils me tombent pas des mains. Et j'espère pouvoir les filer aux autres gamins. Mais bon voilà, chacun son histoire.
Ils vous tombent pas des mains, mais vous en avez un dans la main.
Oui.
Et vous avez le droit de le lire.
Ok. Donc écoutez, en fait, je vous lis juste un petit début de Chien pourri, qui est le premier Chien pourri. Alors voilà, donc Chien pourri est né dans une poubelle, et de nombreuses rumeurs courent à son sujet. Il aurait été abandonné par ses parents, sentirait la sardine, et confondrait sa droite avec sa gauche. Tout cela est vrai. Mais ce n'est pas tout. Chien pourri est également recouvert de puces et ne se déplace jamais sans un fan club de mouches. Pourtant, sous le pelage de cet animal malchanceux, se cache un être doux et affectueux. Il n'est pas rare, d'ailleurs, qu'il se prenne lui-même pour un labrador. Malheureusement, son aspect de vieille moquette râpée repousse les enfants les plus courageux. Chien pourri partage sa poubelle avec Chaplapla, autre estropié de la vie, passé sous les roues d'un camion à l'âge de 3 mois. Son ami lui propose inlassablement les mêmes jeux. On joue à chat ? Ben non, je suis un chien. Alors à chat perché ? Ben non, je suis pas un arbre. Etc, etc.
C'est peut-être aussi le pouvoir de la littérature de montrer justement des anti-héros, parce que votre chien pourri, on peut pas dire que ce soit le plus valeureux, ni le plus brillant, ni le plus intelligent, ni même le plus beau des chiens. C'est le anti-héros absolu. Et pourtant, c'est le héros de votre livre.
C'est un héros comique. Hein. C'est-à-dire que par l'humour, j'essaye de. Voilà, on peut parler. J'aime pas trop ce terme, mais la société est présente dans Chien pourri. Donc Chien pourri, c'est un exclu. Il essaye de faire tout comme tout le monde. Il essaye d'aller à l'école. Il essaye de tomber amoureux et il se fait rejeter. Voilà. Donc c'est à la fois un chien, à la fois un clochard, à la fois un enfant, c'est tout ça en même temps. Et ça permet, si les enfants, comme on dit, sont des éponges, de justement dédramatiser un peu l'espèce d'horreur qu'on voit quand même au quotidien, par l'humour. Voilà. Moi, en tous les cas, je m'amuse, quoi.
C'est déjà bien.
C'est déjà pas mal.
Sur franceinter.fr, Maxwell s'amuse lui aussi, qui nous dit « Je viens de finir les conditions d'utilisation de Twitter avant de publier le hashtag. Ça m'a pris 20 minutes. Est-ce que ça compte comme temps de lecture ou pas ?» Duckcom qui nous dit « À 8-10 ans, j'ai lu Maroussia, un livre rouge et or, on en parlait tout à l'heure, qui racontait la lutte d'une petite Ukrainienne contre l'envahisseur russe. J'adorais ce livre, je l'ai lu et relu. » Annick qui nous dit « J'ai découvert la lecture très tard, à mon grand regret. Maintenant, je ne quitte plus mes livres. Je suis fier d'avoir une belle bibliothèque, donc j'ai lu beaucoup de livres. » Dans le baromètre des Français de la lecture que vous publiez au Centre National du Livre, on apprend, Régina Tchando, que 96% des Français lisent chez eux. Mais malheureusement, la question s'est arrêtée là. Moi, j'ai envie de savoir où est-ce qu'ils lisent chez eux. Aux toilettes, dans la salle de bain, dans leur canapé. Où est-ce que vous lisez quand vous lisez chez vous ?
Dans mon lit. J'adore. Je pense que mon plus grand bonheur, c'est une couette douce, pleine d'oreillers, le livre, la chambre. J'aime pas. Après, bien sûr, comme tout le monde, les transports publics, le train, l'avion, évidemment. Mais le plus clair de mon temps, c'est dans le lit.
C'est vrai qu'on est pas mal. Hein. Patricia Martin, vous lisez où, vous ?
Où est-ce que je lis ? Dans mon lit, oui, ça c'est certain. Mais sur mon canapé aussi, ou même assise à une table. Tout dépend
de l'exercice en cours, je dirais. Si je lis pour Le Masque et la Plume, je lis pas de la même manière que si je lis un bouquin au soleil l'été pendant les vacances, quoi. C'est pas la même chose.
Nous sommes aussi au téléphone avec Gus. Bonjour Gus.
Oui, bonjour.
Vous vouliez témoigner.
Oui, tout à fait. Ben, alors, moi, je voulais vous parler du fait que chez nous, la lecture, c'est assez important. Et c'est aussi un moment de partage dans notre famille. Alors, ça peut être déjà avec ma fille. J'ai une fille de 3 ans et tous les soirs, avant d'aller se coucher, ben, on lui lit une histoire. Mais c'est aussi un moment de partage avec ma compagne parce que donc tous les soirs, on lit. Alors, souvent, chacun un livre de notre côté, mais après, on en parle. Et puis, des fois, je lui fais la lecture à haute voix et on lit un livre ensemble. C'est-à-dire que quand on s'installe au lit, ben moi je lis le livre et après en fait du coup on vit cette histoire ensemble, on en reparle une fois qu'on a fini de le lire et du coup c'est un moment très agréable d'échange.
Et comment ça se passe? Est-ce que c'est une forme de rituel avec, je sais pas, vous attendez toujours une certaine heure, ça se fait toujours dans un contexte particulier
après... Alors en fait c'est pas spécialement qu'on attend une certaine heure, c'est au moment du coucher. Chez nous, en fait, on n'a pas la télé, donc on n'a pas le rituel d'allumer la télé le soir comme peuvent le faire certaines personnes. En fait, c'est une fois qu'on a fini la journée, on se met au lit et on prend automatiquement un livre. Et c'est vraiment, alors des fois, ça peut arriver qu'on regarde un film en streaming ou une chose comme ou des choses comme ça. Mais le rituel habituel, c'est une fois qu'on a fini la journée, on se met au lit et on se met à lire. Donc soit chacun de notre côté, mais ça entraîne souvent des discussions. Une fois qu'on a refermé le livre et éteint la lumière, on en parle parce qu'on a lu, soit ben, des fois à deux, où je fais la lecture à haute voix.
Ça peut aussi montrer la valeur d'un livre, c'est-à-dire plus on s'endort vite, moins le livre est captivant peut-être, non?
Après, ça peut dépendre aussi de la journée qu'on a eue. Des fois,
c'est vrai.
Le livre peut être captivant et on n'a plus l'énergie pour, mais généralement, le livre captivant fait que même si on est très fatigué, on va lire quand même un chapitre ou deux parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe par la suite. Voilà.
Eh bien, merci Gus de votre appel. Bonne journée à vous.
Bonne journée, merci beaucoup.
Et puis sur franceinter.fr, ce message qui nous arrive, que je vous lis parce que je pense qu'il est important. Bonjour, une de vos invitées dit que si les hommes lisaient davantage, ils seraient moins violents. Merci de bien vouloir rectifier. De nombreuses femmes subissent la violence de leur conjoint érudit et lettré. La violence touche absolument tout le monde, tous les milieux, sans aucune distinction. C'est vrai qu'on avait ouvert l'émission avec cette phrase que vous aviez prononcée, Regina Chando, mais c'est important aussi de préciser que malheureusement, les violences faites aux femmes, puisqu'on en parlait au début de l'émission...
Je prétends pas que la lecture...
Évidemment.
Régler toute la violence dans le monde.
Comme on dit, ça va mieux en le disant.
Mais bien sûr. Mais je pense néanmoins que la question, avoir accès à la littérature, à la lecture, être dans cette concentration, ce plaisir, cette douceur, même quand le livre peut être dur, je pense que ça modifie le rapport à l'autre, ça modifie le rapport à l'altérité. Et j'ai la faiblesse de penser que ça peut jouer sur la violence. Je ne dis pas que ça règle tous les problèmes de violence du monde, loin de là.
Encore une fois, ça va mieux en le disant. Ça joue aussi sur la plasticité du cerveau, Sylvie Chocron.
Alors oui, tout à fait, parce que en fait, déjà, on l'a dit, la lecture, c'est une activité qui associe plusieurs fonctions. Donc la lecture, c'est par définition une tâche qui connecte différentes régions cérébrales entre elles. Et puis évidemment, ça stimule la plasticité parce que toutes ces histoires qu'on va construire, tous ces espaces qu'on va imaginer, ces personnages qu'on va imaginer, ce sens qu'on va donner, en fait, ça crée de nouveaux souvenirs et donc de nouvelles connexions dans le cerveau. Et il y a même certaines études qui laissent penser que lire de manière régulière, alors pas forcément énormément, hein, on l'a dit, une demi-heure par jour, voire moins, ça pourrait protéger en quelque sorte du déclin cognitif, et ça pourrait même augmenter la longévité. Et donc, quand on dit qu'on peut se soigner par la lecture, souvent on pense aux soins psychiques, moraux, parce que lire un livre qui nous concerne ou qui nous parle de quelque chose qu'on a traversé, ça peut nous aider moralement. Mais il faut savoir que la lecture, ça peut être aussi un plus sur le plan cognitif, intellectuel, et que ça peut peut-être même nous faire du bien dans notre corps. Et il y a d'ailleurs un auteur qui disait « La lecture est au cerveau ce que le sport est au corps ». Donc voilà, c'est bien plus général que ça, le bien-être que ça procure.
Alors, je voudrais vous faire écouter une autrice, une grande dame de la littérature française. C'est Colette qui lit un extrait de La Maison de Claudine sur Paris Inter en 1947.
À 16 ans, revenant empuisé après une quinzaine de Paris, je retrouvais, après avoir connu Ses cubes, son jardin, ses logis sans fleurs, où nul chat ne miaule derrière la porte de la salle à manger, où on n'écrase pas devant la cheminée un coin du chien traînant comme un tapis. Je l'ai retrouvé. Ensemble, je saluais inséparables ma mère, le jardin et la ronde des bêtes. L'heure de mon tour était justement celle de l'arrosage. Je chéris encore cette sixième heure du soir. L'arrosoir vert qui mouille la robe de satinette bleue, la vigoureuse odeur de l'humus, la lumière déclinante qui s'attachait rose à la plage blanche d'un livre oublié. Nonoche, la chatte aux trois couleurs, avait enfanté l'avant-veille et Bijou sa fille la nuit d'après. Et quant à Musette, la chienne havanaise, elle était intarissable en bâtard.
Colette, qui lit donc un extrait de son propre texte, La Maison de Claudine. Je vous voyais presque fermer les yeux, Patricia. Moi, je trouve que c'est absolument fabuleux ce pouvoir qu'a la littérature d'évocation. C'est-à-dire qu'on était dans son jardin, on voyait les roses, on avait envie de caresser les chatons, quoi.
Exactement. Et puis, moi j'aime infiniment Colette et c'est absolument extraordinaire d'entendre en plus là son merveilleux accent. Et vous savez, elle a aimé beaucoup les chats, mais elle aimait aussi beaucoup les chiens, et notamment elle a toujours eu des bulldogs, je crois. Et alors elle avait appris à un de ses bulldogs à manger des framboises dans le jardin. Et quand on disait au bulldog, viens manger les framboises, il comprenait pas. Mais si vous disiez framboise, là il comprenait.
Et il allait les manger.
Et il allait les manger.
Je voudrais aussi qu'on aborde un sujet qu'on n'a pas encore abordé et qui me paraît pourtant très pertinent. C'est une question que je ne vous ai pas posée, mais c'est pourquoi lisez-vous ? Parce qu'on est en train de décortiquer le rapport à la lecture des jeunes, le rapport à la lecture aujourd'hui de ce que laisse, les traces que ça peut laisser en écoutant Colette. Mais vous, quand vous ouvrez un livre, qu'est-ce que vous cherchez, Carlos Guzman.
Alors, écoutez, je suis un peu comme tout le monde en fait. C'est-à-dire que quand je m'aperçois que mon cerveau devient un peu débile à force de faire des de concentrer mon attention sur une fois que j'ai lu 10 000 fois les mêmes infos et j'ai besoin aussi de m'évader alors soit par l'écriture soit par la lecture voilà de rentrer dans un autre monde et aussi de découvrir le monde de quelqu'un d'autre en fait quand je lis la voix la parole de quelqu'un d'autre voilà, quand on écoute, en fait, on se sent mieux et il y a des livres qui aussi vous renversent. Mais ce que je veux dire, c'est que,
renverse. Qu'est-ce que c'est un livre qui renverse?
Je sais pas, j'ai Les Disparus, par exemple, c'est un livre qui peut être, qui bouleverse. Mais c'est bien d'être bouleversé, c'est bien d'être de ressentir autre chose que sa propre petite personne. Ça vous sort et à la fois ça vous sort du quotidien et en effet, alors cognitivement je sais pas comment ça marche, mais ça stimule l'imagination, que ce soit la lecture ou l'écriture. Moi aussi je pousse tout le monde à écrire parce que je trouve que c'est c'est un exercice formidable. Et puis quand on s'ennuie aussi, ce qui arrive très souvent lorsqu'on est enfant. Alors, soit on prend une balle, on la jette contre un mur, soit on gribouille, je sais pas quoi, soit on fait n'importe quoi. Non, mais c'est vrai, même le corps fait n'importe quoi. Parfois, l'ennui, fait qu'on chope un livre, et puis hop, on s'ennuie plus, et puis après, même si c'est peu de temps, en effet, dans la journée d'un gamin, c'est énorme, il va voir ses copains, il va courir, il a des devoirs, il a, je sais pas quoi, un rapport avec ses
parents. Ils sont très occupés.
Hyper occupés.
Trop occupés.
Ouais, peut-être, mais c'est vrai que, hop, c'est un moment, c'est intime avec quelqu'un d'autre qui vous parle. Et ça peut être un peu magique pour un môme. Parce que d'un coup, il n'y a plus ses parents, il n'y a plus sa sœur, il n'y a plus le frère, il n'y a plus rien. Il y a juste la voix de quelqu'un d'autre et qui vous parle en parlant. Quoi. Bon, voilà.
Vous avez prononcé le mot évasion, m'évader, avez-vous dit. Dans le rapport que vous avez publié, Regina Chando, 72% des Français lisent pour le plaisir. Ça devrait vous faire plaisir de lire qu'on lit pour le plaisir.
Oui, bien sûr. Heureusement. Heureusement que 72% des Français lisent pour le plaisir. Là, on va sortir une étude bientôt qui sera le même baromètre, mais que pour les jeunes. Et donc, on verra là quelque chose de l'ordre de l'injonction, qui sera intéressante pour décrire de manière plus fine le rapport à la lecture. On parlait tout à l'heure de la question de la joie et du plaisir et de comment arriver à la transmettre. Dans le cadre de Partir en livre, le festival jeunesse qu'on organise nous tout l'été, on essaye de sortir le livre des étagères précisément, de le partager dans un jardin public, d'organiser beaucoup de lectures à voix haute. Les enfants aiment beaucoup s'écouter lire aussi ensemble. Les petits champions de la lecture d'ailleurs marchent très très bien et organisent cela à l'école avec l'éducation nationale. Donc on croit beaucoup à la vertu de la lecture à voix haute, il faut lui redonner ses lettres de noblesse. Il faut la glisser un peu partout, notamment je pense dans les entreprises. Certaines entreprises, il y a plus de 1700 entreprises qui se sont connectées et inscrites sur le quart d'heure lecture. Certaines nous ont dit on va lire à voix haute dans la grande salle de réunion un texte qu'un salarié aura choisi. Il y a cette dimension du partage est très importante. Et puis après, pourquoi lit-on ? Ça, je pense que c'est très intime. Moi, je crois que c'est pas pour m'évader vers autre chose, c'est pour m'évader de moi-même. Parce qu'en fait, je me fatigue souvent moi-même. Et donc, je trouve que ça a une vertu d'éloignement de soi avec soi.
Ça repose de soi. Ah, Patricia Martin, vous êtes d'accord ?
Bien sûr, c'est la rencontre avec l'autre. Et c'est une façon quelquefois aussi d'aborder même des thèmes d'actualité. Par exemple, à l'heure actuelle, bon, on ne parle que de ça et de la guerre en Ukraine, mais allez voir du côté de la littérature, allez lisez quelqu'un comme Andrei Kourkov, son dernier livre paru en France et publié chez Liana Levy, c'est Les abeilles grises, et vous comprendrez quelque chose des Ukrainiens, par exemple, en lisant ça. Et ça rend un peu moins passif, parce qu'on se prend tellement de tonnes de trucs dans la figure à longueur de temps. Là, bah, essayons de comprendre, essayons d'aller un petit peu plus loin. Et tout le monde peut le faire, parce que le côté élitiste de la lecture, je trouve que c'est vrai et c'est pas vrai. Bon, cette petite fille dont le papa a téléphoné tout à l'heure, qui fait aussi de la lecture avec sa femme au lit, cette petite fille 3 ans, elle a une chance folle, parce que ses parents lisent avec elle, parce que c'est aussi dans ce rapport à l'autre, c'est très affectif, la lecture. Et même si on sait pas lire, par exemple, on a forcément, il y a des histoires orales, on peut raconter des histoires, mais il y a quelque chose qui se tisse comme ça de l'un à l'autre. Et moi, j'ai deux souvenirs que je vous évoque très très rapidement. Le livre Inter, vous savez, c'est l'opération de France Inter annuelle, et vous savez combien j'y suis attachée. J'ai le souvenir de deux jurés, l'un était déménageur, et l'autre, il se trouve que après j'étais allée le voir chez lui dans le centre de la France, il conduisait un très très gros camion, il était livreur pour un très gros supermarché. Il avait chez lui une toute petite bibliothèque, il connaissait ses livres, il parlait de philosophie, de sociologie, de littérature, d'une manière absolument extraordinaire. Et le déménageur, je me souviens, il avait envoyé une lettre en disant qu'il voyait qu'il imaginait ce qu'étaient les gens dont il déménageait les meubles, à la façon dont ils triaient ou pas leurs livres dans les bibliothèques. Et lui-même lisait à l'arrière du camion. Donc comme quoi, tout le monde
peut lire. Il n'y a pas de présupposé.
Tout le monde peut lire.
Sylvie Chocon.
Oui, pour revenir sur cette question de comprendre ce que vivent les personnages, etc. C'est vrai que la lecture, c'est vraiment une leçon d'émotion, d'empathie. On a cette situation privilégiée où on est seul face à des personnages. On est en même temps nous, mais en même temps eux. Et on sait que la lecture, ça améliore ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. C'est-à-dire la capacité à comprendre et à savoir ce que l'autre pense face à une situation. Et la lecture, ça nous permet de rentrer dans le cerveau des gens. Donc en fait, moi je trouve que lire un roman, c'est un peu pour moi comme regarder une image en neuroimagerie et essayer de voir ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un. Je trouve que c'est plus riche que la neuroimagerie parce que vous rentrez véritablement dans ses pulsions, ses envies, ses craintes, et donc c'est une connaissance de l'autre qui est absolument infinie.
Sur franceinter.fr, Crispo nous écrit « Lire des romans tous les jours est un plaisir et un besoin. Cela me permet de vivre des vies différentes, de réfléchir, de ressentir des émotions. Ça me détend. J'ai un manque lorsque je ne peux pas lire dans la journée. » Nous avons aussi beaucoup de mails d'enseignants qui s'indignent parce que nous avons dit au début d'émission qu'il n'existait pas toujours dans les classes des coins bibliothèques. Donc, beaucoup d'enseignants, manifestement, il y a des coins bibliothèques. Ah, et c'est bah, vrai, super, il y en a. C'était vous qui le disiez. En effet,
non, non, mais c'est vrai, c'est
mais il y en a, oui, il y en a, et ouais. C'est important.
Non, mais
aussi
pas que au CDI où les bombes sont déjà bon. Tu... Ah voilà. Non, toi tu veux au CDI, voilà.
Dans cette idée d'accès libre à
ouais,
la,
un accès
à la
libre et sans jugement.
Mais donc,
machin.
Vous voilà rassurés, les ouais, enseignants nous le disent, il y en a beaucoup. Et puis, ce message de Corinne qui nous dit « Chaque soir, depuis 7 ans, je m'endors grâce à mon compagnon qui me lit tous les soirs, quelques pages. C'est un moment de douceur dont je ne me lasse pas et je l'embrasse bien fort. »
Qu'elle ne change pas de compagnon.
10h50 sur France Inter. Dans quelques instants, nous serons au téléphone avec la Madame Livre de l'émission, Christy Lapelle-Edouel, autrice de ces livres qui nous font du bien, Invitation à la bibliothérapie. Elle nous dira ce que peuvent soigner les livres. Et puis on attend toujours vos lectures, hein, et puis vous pouvez nous dire aussi où vous lisez, vous, et quand vous lisez, 01 45 24 7000 ou bien sur l'appli de France Inter, nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
Funny girl, you look so unassuming, right up until the room you're captivating starts to fill with gut-busting laughter. You're transformed into a 5-foot Cleopatra. Funny girl, your schedule's pretty crazy, doing interviews for the new live-action Kathy. Could you pencil in an industry outsider? Yeah, you're young, but baby, you're not getting young. Funny girl.
Favre, John Misty, qui, contrairement à ce que pourrait laisser entendre son nom, n'est pas prêtre, musicien américain. Le titre qu'on vient d'écouter, c'est Funny Girl. Et toute la programmation musicale est sur le site de l'émission.
Tu sais lire ?
Un petit peu.
Eh ben, tu devrais lire avant de dormir. Ça apaise, ça endort et ça rend moins con.
Grand bien vous
fasse. Ça dépend de ce que tu lis, c'est toujours pareil.
Thomas Chauvineau.
Les Misérables. Non, tu vas rien apprendre. Hein. Jules Verne, ça c'est formidable.
Sur France Inter.
Mon fils a adoré.
Avec quatre invités, on se pose la question des livres aujourd'hui et du plaisir qu'on peut avoir à lire avec Patricia Martin de France Inter, Sylvie Chocron qui est chercheuse en neurosciences, Cola Gutmann qui est auteur pour enfants et Regina Chondo, présidente du Centre National du Livre. Et puis nous sommes aussi au téléphone avec Christina Pelledouel, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Madame Livre de Grand Bien vous fasse, vous êtes aussi en charge des pages livres de Psychologie Magazine et vous-même autrice. Et donc vous avez publié chez Marabout en 2017, je crois, ce livre qui s'appelle « Ces livres qui nous font du bien, invitation à la bibliothérapie ». Donc pour vous, Christina, un livre ça soigne ?
Alors, je ne sais pas si je dirais qu'un livre soigne, en tout cas ne soigne pas comme un médicament ou comme une psychothérapie, mais c'est un support, c'est un soutien, c'est une aide. Je crois que c'est Patricia Martin qui a parlé de consolation tout à l'heure. Ça, oui, évidemment. Et d'ailleurs, de plus en plus de psychothérapeutes en France, parce que dans les pays anglo-saxons, c'est maintenant très répandu, et les pays nordiques aussi, mais de plus en plus de psychothérapeutes se servent de la lecture comme support, comme amplification du travail qui est fait en entretien. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on sait que, vous l'avez dit, Sylvie Chocron l'a développé, mais qu'il y a un phénomène à la fois d'identification et d'élaboration pendant la lecture. Donc, tout le monde connaît cette sensation quand on lit quelque chose, de se dire « c'est ça ». C'est exactement ça, c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est cet effet-là qui permet véritablement de comprendre mieux ou de ressentir mieux, d'analyser mieux ce qui nous arrive à nous.
Oui,
de tous les bonheurs de la lecture.
En effet, l'une des fonctions de la bibliothérapie qui avait été d'ailleurs analysée par l'Université de Queensland en Australie, hein, qui disait que montrer au lecteur qu'il y avait d'autres personnalités qui avaient vécu le même problème que lui pouvait être rassurant et même d'ailleurs donner des clés pour régler les différents problèmes. Sylvie Chocron.
Oui, et en Angleterre, le système de santé anglais, enfin l'équivalent en gros de notre sécurité sociale, prescrit des livres véritablement, des livres qui sont adaptés aux difficultés des patients pour leur faire du bien. Donc il y a des pays qui sont allés beaucoup plus loin là-dedans. Et moi, je pense que ça peut effectivement nous aider à mieux comprendre ce qu'on traverse. Ça peut aussi beaucoup aider les gens qui souffrent de maladies et qui peuvent aussi lire des récits ou des livres faits pour les patients qui traversent ça. Donc ça a plein de vertus différentes.
Et j'en profite pour donner le titre de votre livre, Sylvie Chocron, Une journée dans le cerveau d'Anna, c'est aux éditions Erol. Quel livre vous lisez quand vous allez mal alors, Christina ?
Oh là là,
si jamais ça vous arrive d'aller mal, parce que globalement...
Mais je vais vous dire une chose, quand je ne vais pas bien, je lis de préférence des livres tristes ou des livres angoissés ou angoissants. Je n'ai pas du tout envie de lire quelque chose de joyeux, de rigolo, pas du tout, parce que j'ai justement besoin de me retrouver dans ce qui est écrit et qui est perçu et raconté de manière différente que ce que je vis moi. Donc c'est une ouverture sur ma tristesse, ma dépression, mon chagrin, peu importe. C'est une ouverture et c'est vraiment un appui. Je ne suis plus seule. C'est exactement ce que vient de préciser Sylvie Chocron. Je ne suis plus seule. D'autres l'ont vécu. Donc il y a une espèce de solidarité dans la difficulté à travers les livres. Et ça, c'est
le livre partagé.
Important.
Eh ben, merci Christina. On vous retrouve demain avec Ali Rebéi dans Grand Bien vous fasse. Ça me fait penser à une ancienne publicité, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui disait « Quand je suis malade, je vais chez mon libraire ». C'était une publicité il y a une quinzaine d'années. Eh bien, merci d'avoir été avec nous en direct dans Grand Bien vous fasse. Cette émission peut se réécouter où vous voulez, quand vous voulez, sur toutes les plateformes. C'est déjà fini de podcast. Et demain, à 10h, vous retrouverez Ali Rebéi, le maître de cérémonie et toute la clique de Grand Bien vous fasse.